inséparables. Alors donnait un grand festin et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, venez maintenant, tout est prêt. Mais tous, avec ensemble, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis forcé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit, j'ai pris femme et c'est pourquoi je ne peux pas venir. Le serviteur, quand il revint, rapporta les réponses à son maître. Alors le maître de maison, pris de colère, dit à son serviteur, va-t'en vite par les places et les rues de la ville, et les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as commandé est fait, et il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur, va par les chemins et par les enclos, et fais entrer de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Une parabole pour ce deuxième dimanche après la Pentecôte, parabole portant sur les distractions du monde, de la chair, du démon, qui éloigne les gens du royaume des cieux. Et vous, chers séminaristes, vous partez bientôt en 2 mois et demi de vacances, en toute une diversité de circonstances, et un certain nombre de vous, vous partirez comme prêtres, si Dieu veut. Il semble bien qu'il le veut. Et vous vous affronterez, vous vous trouverez affronté à un monde dont vous avez entendu dire un prêtre récemment ordonné à Aigon qui vous a dit récemment en retraite que il vous a dit, vous avez pu peut-être trouver dans sa prédication non pas une note d'amertume, non, certainement pas, une note de déception, non plus, mais une note de réalisme, disons, lorsqu'il est clair que affrontant le ministère, il s'est trouvé affronté à un monde qui ne veut pas de Dieu. Il ne faudrait absolument pas dire qu'il se faisait des illusions avant, je ne crois pas que ce soit le cas. Mais face à ce monde de distraction figuré par les 3 hommes qui veulent s'occuper de leur territoire, de leur nouvelle épouse et de leur bœuf, pensons, résumant tout cela, en mettant en opposition l'instrument par excellence de distraction aujourd'hui est la plus grande des vertus, le cœur, le sommet de la vie spirituelle. Mettons en opposition la télévision en donnant les raisons pour lesquelles il faut s'opposer. Sans doute, chers séminaristes, vous avez compris qu'il faut s'opposer, mais vous ne savez peut-être pas tous. Vous n'avez pas énuméré les raisons pour cela. Et sans doute, chers fidèles également, je n'en doute pas, il n'y a encore pas beaucoup d'entre vous qui avez encore cette machine à la maison. Mais il faut bien savoir pourquoi on ne l'a pas. Autrement, le diable revient pour le réinstaller. Quelqu'un, avec un de mes proches parents, m'en fait cadeau. Et pense vraiment me faire un cadeau. Il me fait tout le contraire, sans le savoir. Mais il faut que moi, je le sache pour que je n'accepte pas ce cheval de Troie dans ma maison. Résumons en 5 points et opposons donc la télévision à la charité. Résumons les caractères nocifs de la télévision par le sigle impur, I-M-P-U-R. La télévision est successivement immonde, mondain, passif, uniforme et rabaissant, ce qui nous donne IM et MPUR. Et analysons. Premièrement, immonde.
il n'y a pas besoin d'insister. Même dans les émissions apparemment les plus innocentes, il y aura des insertions, on insérera des images, des flashs absolument pas adaptés à sauvegarder la chasteté de l'esprit et du cœur. À titre de deux exemples, on vous fera le tour d'un musée prestigieux rempli de grandes œuvres d'art. Eh bien, on s'attardera sur telle et telle toile qui n'est pas adaptée, comme je l'ai dit. Tout le contraire. Une émission de sport, plusieurs regardent la télévision pour le sport. C'est ce qu'il y a de plus, relativement de plus sain, il y a le plus de santé, le moins malsain à la télévision. Pourtant, la publicité que l'on insérera, ou même les amusements du mi-temps pour un jeu de football à titre d'exemple, seront également totalement inadaptés à sauvegarder la chasteté de l'esprit. C'est le plus évident, l'inconvénient le plus évident pour la télévision, ces immondices. Deuxièmement, la télévision est mondaine. Mondaine parce que toute l'atmosphère, laissons même de côté ces flashs qui sont aptes à produire en série des millions et des millions de péchés mortels dans tout un pays. Rêve inouï de Satan depuis qu'il est là, depuis qu'il est tombé du ciel, rêve de Satan, un tel instrument. Eh bien, laissons même de côté cela, toute l'atmosphère de la télévision est imprégnée pour parler de son contenu. Tout son contenu est imprégné du monde. C'est tout l'esprit du monde, de la chair et du démon. À titre d'exemple, encore l'émission qui passe pour être l'une des émissions qui passe pour être la plus sérieuse, qui permet à un homme qui a encore de l'amour propre de garder cette machine dans sa maison, c'est l'émission des actualités. Il dira à tel ou un tel qui l'accuse de l'avoir chez lui, « Ah oui, mais il faut absolument que je regarde les actualités. » Eh bien, qu'il fasse bien attention, car même là où on prétend que ces émissions correspondent à la réalité, où le contenu est supposément puisé dans le monde tel qu'il est, eh bien, le gauchissement, littéralement, de ces actualités est affreux. Lorsqu'on arrive à savoir la différence entre la réalité telle qu'elle était et telle qu'elle paraît dans ces émissions d'actualité, on voit bien que c'est une machine de mensonge. Ça là aussi, à condition de savoir un peu ce qui se passe dans les coulisses du monde actuel, on voit clairement combien sont fausses, subtilement et profondément fausses, ces émissions qui se prétendent les plus réelles et les plus justes. Et cela, c'est profondément typique de cette machine de mensonge. Donc, monde, immonde et monde. Cela pour le contenu de la télévision. Mais on vous objectera. C'est entendu, monsieur l'abbé. Mais cette machine en elle-même est neutre. Elle pourrait servir le bien. Eh bien, il y a des raisons pour penser que même si les émissions étaient angéliques, c'est encore une machine qu'il ne faut pas avoir dans la maison. P. Passif. Cette machine fait des passifs. Je mets les pantoufles. Je m'installe dans un fauteuil. Il y a maintenant les fauteuils avec les contrôles construits dans le bras du fauteuil. Il n'y a même pas besoin de se lever du fauteuil pour changer d'émission, pour mettre plus de bruit ou moins de bruit, pour les contrôles. Les contrôles sont à portée de main, et c'est la passivité même. Ce que les instituteurs et institutrices dans les écoles de petits-enfants se rendent bien compte, et rapidement, dans telle ou telle classe d'enfants, lesquels sont les enfants qui ont la télévision à la maison et lesquels ne l'ont pas. Ceux qui ont la télévision à la maison sont passifs et sont inertes, ces enfants. Ils sont habitués à tout recevoir, recevoir, recevoir. Tandis que les enfants qui n'ont pas la télévision, ils sont actifs. Ils sont beaucoup plus actifs, ils sont habitués à discuter, ils sont habitués à une circulation à deux sens. Et voilà un grand mal de cette machine. C'est une machine, c'est, la circulation donc est à sens unique. Et ça fait des personnes tout à fait passives. Il y aurait d'autres exemples pour illustrer ce même point. Mais passons donc et notons bien que cela serait vrai même si le contenu des émissions était congénie. Et dans les deux premiers points, c'est le plus évident de tout, le contenu est loin d'être congénie. Mais même si c'était une prédication merveilleuse, je serais toujours relativement passif. Autre exemple, prenez un grand comédien sur la scène. Il vous dira, un comédien qui connaît son travail, qui connaît son métier, disons, il vous dira que l'auditoire n'est pas pareil deux soirées suivantes au théâtre. Que chaque soir, l'auditoire est différent. Un comédien sent son auditoire et l'auditoire lui donne, un auditoire vivant lui donne quelque chose, attend quelque chose de lui. Et lui donne un intérêt, plus ou moins grand. Un musicien, c'est pareil. Un musicien jouera plus ou moins bien selon qu'il sent quelqu'un qui écoute plus ou moins bien. Quelqu'un qui écoute, qui sait écouter la musique, qui connaît la musique, l'inspirera à jouer mieux parce que celui qui écoute donne quelque chose. C'est une circulation à deux sens entre deux êtres vivants. Le théâtre vivant ou la musique vivante, à titre d'exemple. La télévision, comme le cinéma, comme la radio, c'est une circulation à sens unique. Et on essaie de fabriquer quelque chose à deux sens par une réaction d'auditeurs, mais ce n'est absolument pas la même chose. Les auditeurs peuvent téléphoner, mais il n'y a rien à faire. Comme activité, on ne peut que casser le téléviseur. Ça, c'est l'acte qu'il faut. Face à cette machine qui veut faire de moi un robot inhumain et qui me réduira à un robot passif, inhumain et inerte. Et cela, je vous le suggère encore, indépendamment du contenu. Encore indépendamment du contenu. Point semblable. C'est uniforme, disons. La télévision est uniforme. Disons que c'est une autre façon de dire que c'est une machine. Contraste, mettons un contraste entre la famille qui se rassemble autour du chapelet ou autour autour de la prière, qui se réunit dans la prière. Et c'est encore entre personnes, c'est personnel. Mais cette fois-ci, c'est une machine. Ça rejoint un peu le point précédent. Je m'habitue à un contact machinal, je me coupe des hommes. Cette machine dans le foyer, encore, même si les émissions étaient congénies. C'est donc indépendamment du contenu. Ces trois derniers points, indépendamment du contenu. C'est la machine, le mécanisme, ce qui est machinal installé au cœur du foyer. Ce n'est pas le contact entre les personnes. Les jeunes enfants, les jeunes garçons ont absolument besoin de parler avec papa. C'est papa qui a les grâces d'état, qui a les grâces de paternité pour instruire et former en premier ses enfants. Eh bien, voilà papa en pantoufles et fauteuil avec la machine et il ne veut pas parler. Il est nerveux, il est épuisé pour son travail au bureau. Tout ce qu'il veut, c'est se faire robot pendant 3 heures le soir. Eh bien, c'est clair. C'est la machine qui s'insère dans la famille et qui coupe les relations, les rapports familiaux. Un dictateur bénévole d'un pays, même s'il avait une telle maîtrise des programmes à la télévision qu'il pouvait garantir que ce n'était rien que d'excellent, un dictateur bénévole et intelligent ne permettrait pas qu'il y eût plus d'une heure par soir de télévision pour que dans son pays à lui, où il est bénévole, et duquel il est responsable, pour que le reste du temps, chaque soir, ce serait la famille entre eux. Pour qu'il n'y aurait pas de divorce entre papa et maman, parce que l'une ou l'autre est complètement fixée sur la machine. Et pour qu'il n'y ait pas ce clivage des générations entre les enfants et les parents, parce que l'un ou l'autre est encore fixé sur la machine. Voilà ce que devrait faire un dictateur bénévole. Uniforme, donc, c'est la machine qui remplace les personnes. Et dernièrement, c'est rabaissant, disons. Et par là, j'entends, encore, c'est un point indépendant du contenu. C'est rabaissant parce que c'est une machine qui accapare les sens, surtout en couleur. C'est une lanterne magique qui monopolise l'attention et qui rabaisse l'homme au niveau sensitif, tel qu'il est opéré aujourd'hui, mais en soi, il est apte à envoûter l'homme et occuper toute son âme au niveau sensitif. Et donc, cela par soi, par lui-même, cette machine abrutit l'homme au niveau intelligent et volontaire. Et donc, ce que nous constatons aujourd'hui, l'abrutissement, l'atrophie de l'intelligence, de la volonté et de la mémoire, les facultés spirituelles de l'âme sont atrophiées par la fréquentation de cette machine. Cela encore, les instituteurs le constatent dans l'école, que l'intelligence et la volonté de ceux qui sont habitués à la télévision, pour raviver l'intelligence et la volonté, il faut couper de cette machine. C'est net et c'est simple. Passons à la charité. Donc, en face de l'immondice, les immondices de la machine, la charité qui nous fait aimer Dieu, trois fois saint, totalement et absolument pur de toute impureté. Et donc qui, n'est-ce pas, qui nous purifie au fur et à mesure que par en aimant Dieu, qui est absolument pur, nous devenons plus semblables à ce que nous aimons. Voilà ce que dit, je crois, le prophète Jérémie. Ils sont devenus semblables aux idoles de terre qu'ils ont adorées. On finit par rassembler à ce que l'on aime. Vous aimez Dieu, vous finirez par rassembler à Dieu. Pardon, ressembler à Dieu. La fréquentation, l'amour de Dieu vous élèvera, nous élèvera et nous purifiera. Tout le contraire de ces images mauvaises à la machine. Mondain, la charité est tout le contraire de mondain. La charité est du Christ. Deus caritas est. Et dans l'épître que je vais vous lire, tout à l'heure dans cet épître de Saint Jean, dans ce qui est l'épître de cette messe d'aujourd'hui, nous avons que Dieu est charité, et il l'a prouvé en donnant sa vie pour nous, la charité du Christ. C'est le Christ qui a réintroduit la charité dans ce monde, et ce monde, en refusant le Christ, c'est le refroidissement de la charité. La charité et le Christ, tout à fait opposés au monde, vont strictement ensemble. Et essayer de rétablir l'amour du voisin dans ce monde, l'amour du prochain dans ce monde sans le Christ, c'est un procédé voué totalement et inévitablement à l'échec. Passif, actif. La charité est active. La foi œuvrant par la charité, dira saint Paul. Quand nous avons la foi et que nous avons la charité, le vrai amour, premièrement de Dieu et deuxièmement du voisin, nous ne pouvons pas rester inactifs. Il faut que nous fassions quelque chose pour nos pauvres voisins, pour nous-mêmes, pour notre pauvre âme, pour notre propre âme en premier, et puis pour le prochain, et pour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas rester dans notre fauteuil quand nous avons la charité. Même les plus grands, les saints, les plus grands contemplatifs, si vous voulez, ne sont pas pour autant restés inactifs. Grand nombre ont été plongés dans l'activité. Et ceux qui sont restés, disons, enfermés, eh bien, leur activité est passée sur des ondes encore plus puissantes et invisibles dans le corps mystique pour jaillir dans des grâces actives d'autres, obtenues pour d'autres, et par le corps mystique de l'Église. Donc, la charité est extrêmement active. Elle ne peut pas se tenir tranquille à ne rien faire. uniforme, la machine était uniforme, ou machinale, si vous voulez. La charité est intensément, on ne peut plus personnel. C'est absolument pas uniforme. C'est différent d'un moment à l'autre. Dieu est toujours uniforme. Il est toujours égal à lui-même. Mais d'une façon tout autre qu'une machine. Vous savez, séminaristes, l'immobilité de Dieu est tout autre que l'immobilité ou l'uniformité des créatures ici-bas. C'est l'immobilité de Dieu et l'immobilité de l'être débordant, de l'être infini, qui ne peut pas changer parce qu'il a déjà tout. Et nous, on aimons Dieu. Ce n'est pas que, comme on parle de la charité, ce n'est pas que nous donnons quelque chose à Dieu parce qu'il ne peut rien recevoir. Mais nous donnons constamment à nous-mêmes. C'est constamment nouveau, c'est une source d'eau vive jaillissant en nous. La vie de la charité, la vie de la grâce, source d'eau vive, venez voir, dit notre Seigneur, crie notre Seigneur, dans l'évangile de Saint Jean. Venez puiser aux sources d'eau vive. Et les prophètes dans l'Ancien Testament qui parlent des eaux vives, de cette vie de Dieu en nous. Donc c'est extrêmement personnel, car il s'agit des facultés les plus hautes de notre âme, engagées à plein, notre intelligence pleinement engagée dans la foi, et notre volonté dans l'espérance et puis la charité. La foi et l'espérance devront précéder la charité. Nos facultés les plus hautes et les plus spirituelles, et voilà justement le cinquième point, tandis que cette magie, la lanterne magique, rien que par cette danse envoûtante de couleurs, on voit bien comment les enfants sont complètement pris par cette danse de couleurs. Autrefois, on avait un petit jouet qui consistait dans de petits morceaux de papier coloré dans une tube avec des miroirs. Alors on secouait, cela faisait beaucoup des dessins très jolis, géométriquement jolis. Alors on secouait de nouveau, rien que les couleurs, et on regardait dedans épaté. Mais la télévision, combien plus fort pour accaparer l'âme. L'âme ne peut pas se donner tout à fait, lorsqu'elle doit digérer, elle ne peut pas penser, elle peut difficilement penser. Lorsqu'elle est bien engagée dans la pensée, elle peut difficilement digérer. Lorsqu'elle est tout à fait donnée à l'activité sensitive, l'activité intellective est empêchée, et l'inverse. Et donc, tandis que la télévision nous engage à fond, en occupant nos oreilles et nos yeux, les sens, en les envoûtant presque, la charité, par contre, engage à plein et fait tourner à plein, si vous voulez, nos facultés spirituelles. C'est l'intelligence et la volonté qui sont engagées en brigadées, si vous voulez, par la charité. Tout à fait autre chose. Et alors, contre les cinq points, l'immondice, la mondanité, la passivité, l'uniformité et le rabaissement de la télévision, vous avez la sainteté. Le Christ, l'activité au plus haut sens du mot, la personnalité plénière, parce que c'est moi-même qui dois aimer, c'est personne d'autre qui peut aimer à ma place. C'est moi qui aime, que tout comme entre deux personnes, l'amour est intensément personnel. Eh bien, entre nous et Dieu, à plus forte raison, car Dieu nous est encore plus intimement présent en nous qu'une autre personne en face de nous. Et spirituelle, la charité donc spirituelle, et loin de rabaisser, elle nous élève, parce qu'encore, nous venons à ressembler à ce que nous aimons, et en aimant Dieu, nous venons à ressembler à Dieu. Et donc l'amour de Dieu nous élève, tandis que l'amour de toutes ces créatures matérielles présentées par la télévision est bien apte à nous rabaisser. Ça, c'est revenir au contenu, c'est le contenu, mais ce problème de la lanterne magique est indépendant du contenu. Les enfants sont captés rien que par les couleurs et les sons. Même si l'émission était angélique, ils n'écouteraient pas, ils ne feraient pas attention. La chose est trop envoûtante en elle-même. C'est ce que dit l'Américain qui a analysé cela. The medium is the message. Le moyen est devenu le contenu. On a détourné la fin, le moyen est devenu la fin, si vous voulez. C'est tout le drame, c'est un drame de notre monde moderne. On est tellement maître des moyens qu'on perd les fins. Et cette machine, si habile qu'elle soit, si bien faite, si géniale dans son invention et dans sa technique, eh bien, c'est un moyen qui devient fin en elle-même et qui par là également détourne du Dieu. Voyons le petit portrait que l'apôtre de la charité a esquissé pour nous dans cette épître. Frères bien-aimés, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Monde de la charité, monde de vie, monde de la télévision, c'est le monde de ce qu'appelaient les Grecs Eros et Thanatos, l'éroticisme et la mort, ce monde de la drogue, la mauvaise musique, toutes ces tendances suicidaires implantées dans la graine de notre société matérialiste, et cette machine qui favorise à tout instant le matérialisme, et donc cette poussée au suicide. Monde de mort, monde de télévision, monde de charité, monde de vie. Qui n'aime pas demeure dans la mort, car qui n'a pas la grâce, la charité dans son âme, n'aura pas la grâce de Dieu non plus. Et qui n'a pas la grâce en son âme, a le péché originel, le péché non seulement originel, mais le péché mortel. Quiconque hait son frère est un homicide, et vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Autrement dit, il y a deux maîtres, il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Ou la charité, la grâce et la vie, ou la mort. Et l'homicide va dire, jusqu'à dire Saint Jean. Et donc toutes ces organisations supposées bien présentes aujourd'hui, mais qui essaient de marcher sans la charité et sans la foi catholique, se sentent en fin de compte, grise en tant que telle, des organisations œuvrant pour la mort. C'est paradoxal et c'est ça peut paraître extrême de le dire. J'ai quelques exemples présents à l'esprit. Ce sont des athées, à titre d'exemple, ce que l'on dit de telle organisation internationale qui prétend s'intéresser pour les prisonniers. Eh bien, cette organisation œuvre de fait pour le communisme et pour la mort, très certainement, sous des apparences trompeuses. Vie de mort, monde de mensonges, monde de mort. La charité, à ceci nous avons connu la charité. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà la charité et le Christ. Et nous, nous devons aussi donner notre vie pour nos frères. Voilà la charité et l'activité. La charité ne reste pas tranquille. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, qu'il voit son frère dont le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Encore, l'activité, la charité pousse à agir. Là, cette contemplation de Dieu, cet amour de Dieu, d'elle découle l'amour du prochain et l'opération, l'activité pour le prochain. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en acte et en vérité. Et voilà encore que Saint Jean, le grand contemplatif, s'il y en a eu, l'aigle parmi les quatre évangélistes, celui qui a vu le plus haut et le plus loin, le plus pur, le plus dégagé de ce monde, Saint Jean. Et pourtant, mes frères, aimons en acte et en vérité, sans mensonge et sans inactivité, sans cette passivité funeste qui est la passivité moderne. Prions Saint Jean dans cette intention-là et celle avec qui il a passé, celle qui a été confiée à lui par notre Seigneur en croix, Notre-Dame. Prions-les pour que, en particulier pour les jeunes prêtres qui doivent partir bientôt comme prêtres et faire face et réimposer avec la violence de Jésus-Christ, qui est la violence qui respecte le libre arbitre, réimposer à ce monde d'éroticisme et de mort, réimposer l'amour de Jésus-Christ, ramener les gens à la vie de la charité. Prions pour eux. Et je me permets de vous confier aussi une intention particulière. Un père de 5 enfants, et l'un d'eux a été accidenté aujourd'hui, me dit-on, et serait dans le coma. Prions aussi pour lui au cours de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Méditons aujourd'hui pour nous élever les esprits avant de redescendre dans les détails quotidiens. méditons la très sainte Vierge au pied de la croix. Notre-Dame des sept douleurs, c'est proprement sa fête aujourd'hui. Et c'est la fête, entre parenthèses, des sœurs et des oblates de la fraternité Saint-Bidis. Notre-Dame des sept douleurs est leur patronne. Et c'est, n'est-ce pas, pour cela que nous récitons chaque fois le Stabat Mater. Quand, en faisant le chemin de croix et quand nous récitons ou chantons avec le Stabat Mater, nous commémorons le rôle intimement connexe avec notre Seigneur, le rôle joué par Notre-Dame dans la rédemption, jusqu'au point où on appelle la Très Sainte Vierge la co-rédemptrice, car comme à la passion de notre Seigneur, elle ajoutait sa compassion. Alors, passion veut dire souffrance, c'est le verbe pâtir. Et qui est capable de souffrir beaucoup a la patience. Alors, ces mots sont tous connexes. Bien, la passion, ça veut dire la souffrance. Et alors, la compassion, c'est la souffrance associée. Et notre Seigneur, c'est de toute évidence, a absolument voulu que sa mère soit au pied de la croix pour souffrir avec lui et pour souffrir très intimement avec lui. Et alors, pensons, car aujourd'hui, Dieu doit savoir si certains de vos cœurs, sinon tous, ont été plus ou moins déchirés comme cœur de maman, toutes celles d'entre vous qui êtes maman. Si vos cœurs ont été déchirés, sont déchirés par ce que vous voyez arriver à vos enfants, notamment peut-être à vos fils, à vos hommes, à vos maris, vous voyez les tentations, vous les voyez entraînés, vous les voyez corrompus, je ne sais pas. Dieu accorde que vous ne les voyez pas corrompus, que vous les voyez résister. Et ils résisteront si vous les aidez. Mais, et si Dieu donne sa grâce. Mais vous êtes sûrement beaucoup payés pour savoir ce que c'est que la souffrance du cœur de la maman. Eh bien donc, il ne devrait pas être trop difficile, beaucoup plus facile pour vous que pour moi peut-être, que d'imaginer ce qu'a été le cœur de la Très Sainte Vierge broyé au pied de la croix. Alors, essayons de méditer un peu. Et méditons combien la Très Sainte Vierge a dû souffrir. Essayons de nous imaginer ces choses-là. C'est très difficile. Et une première raison, c'est parce que la Très Sainte Vierge est si pure, et vous et moi, plus ou moins, nous ne le sommes pas. Elle est absolument pure de tout péché. Tout péché. Or, chaque fois que nous péchons, nous obscurcissons notre conscience. Nous voyons d'autant moins clair. Nous voyons moins clair ce qu'est le péché. Nous voyons moins clair combien le péché est grave. Nous voyons moins clair combien le péché offense Dieu. Jusqu'au moment où, comme dit Job, nous buvons le péché comme l'eau, que Dieu accorde que ce n'est le cas d'aucun d'entre nous. Mais voilà ce que dit Job, et nous pouvons l'observer autour de nous. Si nous en arrivons à pécher avec une telle facilité que nous n'avons plus aucune idée ce que c'est qu'offenser Dieu. Moins nous péchons, mieux nous nous rendons compte, c'est bizarre. Mais plus nous péchons, et si nous émoussons notre conscience en même temps, et si nous nous adonnons au péché, nous émoussons notre conscience, eh bien, à ce moment-là, nous ne voyons plus ce que c'est que d'offenser Dieu. Et donc, nous ne voyons pas ce que c'est que la grande souffrance de la Très Sainte Vierge Marie au pied de la croix. Car, bien sûr, la maman humaine qu'elle était, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, la presque totalité, la maman humaine, c'était une maman humaine, rien de moins, beaucoup de plus, mais rien de moins, elle était au moins cela, c'était une maman humaine broyée, dont le cœur était broyé par les souffrances de son fils humain. Alors chaque fois que vous avez souffert, que vos enfants vous ont fait souffrir par leur péché ou par ce qu'on leur a infligé à eux, eh bien vous avez une idée. Évidemment, la Très Sainte Vierge n'était pas affligée par le péché de son fils, mais les péchés de Parce que si la maman est affligée par le péché de son fils, c'est parce qu'elle sait le mal que cela fait à son fils même. Exactement comme le péché qui faisait le mal à notre Seigneur. Sauf que le péché n'était absolument pas dans notre Seigneur, tandis que le péché est probablement plus ou moins dans vos fils. Et c'est ça qui est si grave. Mais nous, vous les voyez désintégrés sous vos yeux à cause du péché, à cause de cette corruption, la pornographie, tout. Eh bien, là, très Sainte Vierge, voyez son fils se disloquer sous ses yeux. Le voilà en croix, cloué, disloqué. Les membres arrachés de leur jointure par les clous, par la tension de la croix. Et puis le moyen, la manière, donc, il ne sera sur un premier plan, je parlais du péché, mais pas, nous pourrions partir des souffrances purement physiques de son fils. Et puis imaginons-nous cela un moment. Alors là encore, la Valtorta, oh, les détails du crucifiement, comment elle met cela devant les yeux. Et c'est tout à fait vraisemblable. Et nous avons l'évidence du Saint-Suaire pour corroborer beaucoup de cela. Par exemple, il y a beaucoup de détails dans le Saint-Suaire si on sait le lire. On voit par exemple que le corps de notre Seigneur sous le Saint-Suaire, la cage des côtes est très élevée. Par contre, le diaphragme est très abaissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit exactement ce que dit un docteur français qui s'est penché sur le docteur Barbet, qui se sont penchés sur le... que probablement notre Seigneur est mort par asphyxie. Une mort terrible. À savoir que lorsque le corps est suspendu aux deux bras, les bras élèvent toute la cage, ils soulèvent toute la cage et il est d'autant plus difficile de respirer. Si vous élevez la cage des côtes, vous trouverez que vous devez respirer tout en bas. C'est tout ce qui reste pour respirer. Les poumons n'ont plus de liberté ici pour, n'est-ce pas, pour s'enfler et se dégonfler. Donc, tout est en, c'est par, pour ainsi dire, par l'estomac qu'il faut respirer. Ça, c'est très difficile. Alors, pour empêcher cela, notre Seigneur devait tirer sur les bras pour laisser un peu plus de liberté pour respirer. Autrement, il ne pouvait plus expulser l'air usé de ses poumons. Il tire sur ses bras, on pousse sur ses pieds. C'est la douleur terrible sur les trois clous, trois ou quatre, disons trois. Les trois clous, c'est la douleur renouvelée sur les trois clous. De ses deux pieds, ses deux mains. Et puis, c'est les crampes. Imaginez-vous les crampes terribles dans les muscles emprisonnés et puis essayant de pousser. Les crampes dans les jambes terribles jusqu'au moment où il n'en peut plus. Il se laisse affaisser de nouveau sur les bras et c'est l'asphyxie qui recommence. Donc entre les crampes et l'asphyxie. Et Notre-Dame, stabat juxta crucem, elle se tenait debout, dit l'évangéliste. Notre Seigneur voulait qu'elle se tienne debout. Des souffrances morales et physiques qui ont fait d'elle la reine des martyrs, dit l'Église. Regina Martyrum, dans les litanies de Lorette. La reine des martyrs, sans aucun doute, notre Sainte Vierge est passée par des souffrances excédant la somme de toutes les souffrances de tous les martyrs, sans aucun doute. C'est difficile encore une fois à nous imaginer cela, mais c'est encore une fois parce qu'elle était si pure. Vous et moi, nous souffrons d'autant moins parce que nous sommes moralement et physiquement abîmés, pour ainsi dire. Et donc, nous sommes d'autant moins sensibles à la souffrance. Mais elle était parfaitement et totalement sensible, comme son fils. Et alors, elle n'avait en elle aucun moyen d'esquiver ni de contourner. Et il n'y avait pas non plus la volonté d'éviter la souffrance. Elle voulait prendre cela sur elle, tout comme son fils prenait tout sur lui. Tout comme lui, il était Dieu, elle n'était pas Dieu. Mais elle était la mère de Dieu. Et donc, elle pouvait le faire d'une façon tout à fait autre que tous les hommes. Aucun autre homme n'a été mère ni père de Dieu. Elle l'était. Elle était mère de Dieu. Et donc, une pureté, une sensibilité qui font que ses souffrances s'abattent sur elle avec une férocité que nous ne pouvons pas nous figurer. Donc, n'est-ce pas, imaginez-la au pied de la croix. Et elle veut être là. Pourquoi veut-elle être là? Pour soutenir son fils. Et son fils, humainement, a voulu être soutenu par elle.
Laval Tote, je crois, si je me rappelle bien, dit, bon, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas de foi, je le répète. Et Laval Tote dit que le grand cri que notre Seigneur a poussé quand il est mort, vous vous rappelez que c'est dans l'évangile, juste avant de mourir, il a poussé un grand cri. Eh bien, c'est un détail, c'est pour tout le moins une imagination pieuse, si ce n'est pas vrai. Mais ce grand cri aurait été « Maman ». C'est possible, c'est tout à fait possible que son dernier cri, n'est-ce pas, quand il expirait, c'était « Maman ». C'est possible. Moi, je ne sais pas, je ne prononce absolument pas là-dessus. Mais ce n'est pas impossible. Il est fort probable que notre Seigneur ait dit plus que seulement les sept paroles que nous connaissons, les sept paroles en croix. Celles-là, il les a certainement dites. Et probablement de plus, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout à fait possible que ce cri ait été un cri à sa mère. Il l'a voulu. Il a voulu avoir besoin d'elle auprès de la croix. Et là, nous voyons, n'est-ce pas? Tout cela, c'est un aperçu du grand rôle que peuvent et doivent jouer les femmes en souffrant. Aujourd'hui, n'est-ce pas? On parle du sacerdoce des femmes. C'est une bêtise. Une bêtise. N'est-ce pas? Premièrement, parce que si un évêque prenait en tête de vouloir imposer les mains, réciter la forme du sacrement et imposer les mains à une femme, ce serait invalide tout simplement. Absolument et intrinsèquement invalide. Donc elle ne serait pas prête. Les pauvres gens se font une idée des sacrements comme quoi ce sont les hommes qui font les sacrements. Mais il n'en est rien. C'est notre Seigneur qui a fait les sacrements. Et donc, tout simplement, n'est-ce pas, si un évêque, c'est notre Seigneur qui a décidé que les hommes seuls seront des prêtres. Les femmes seules seront des mamans. Les hommes seuls seront des prêtres. C'est comme ça. N'est-ce pas? C'est notre Seigneur qui l'a dit. Et donc, vous parlez de femmes prêtres, c'est une bêtise parce que notre Seigneur, tout simplement, n'a pas le voulu. Donc c'est impossible. Impossible, absolument impossible, qu'une femme puisse jamais consacrer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est intrinsèquement impossible parce que notre Seigneur ne l'a pas voulu. Nous pouvons ensuite nous poser la question, pourquoi notre Seigneur ne l'a-t-il pas voulu? Pour trois raisons, dit saint Thomas. C'est-à-dire, saint Thomas, dans sa somme théologique, donne trois raisons pourquoi les femmes ne doivent pas, c'est pas la raison pourquoi elles ne doivent pas être prêtres, mais c'est semblable. Pourquoi elles ne doivent pas être enseignantes? Premièrement, parce qu'elles doivent être soumises, enseignantes publiques. Saint Thomas distingue d'abord. Les mamans, les femmes peuvent très bien enseigner en privé, surtout dans un cadre familial. C'est leur grand rôle d'enseigner comme maman leurs enfants dans le cadre familial. La maman, c'est la créatrice de la personnalité de ses enfants, presque. Elle y fait beaucoup plus, elle y est pour beaucoup plus que le papa. Parce qu'elle est beaucoup plus intimement liée à la formation et à l'éducation des enfants que le papa. Donc, familièrement, dans la famille, oui, elle peut enseigner. Mais en dehors de la famille, en dehors de la maison, non, pour trois raisons. Premièrement, elle doit être soumise à l'homme. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Or, un enseignant n'est pas soumis. Un enseignant, c'est quelqu'un qui est encore en tant que tel, est au-dessus. C'est un supérieur en tant que tel. Alors, les femmes enseignantes, c'est une contradiction dans les termes. Pour devant Dieu. Alors, les professoresses, en soi et devant Dieu, c'est un malheur. C'est une honte que les hommes ne sachent pas ou ne veuillent pas professer ce qu'ils devraient professer. Et c'est une honte qu'il n'y ait pas les professeurs qu'il faut. Mais les professeuses, c'est un monstre dans la nature, pour ainsi dire. C'est faux. C'est radicalement et intrinsèquement faux devant Dieu. Parce que, et cela tient à deux choses. Ça tient au péché originel, mais non seulement. Car le péché originel, même sans le péché originel, la femme aurait été soumise à l'homme. C'est cela l'enseignement de l'Église. N'est-ce pas? L'enseignement des pères, je vous le prouve. Les pères de l'Église, donc dès le début de l'Église, ils disent le suivant, qui est très intéressant et très beau. si Ève a été prise d'une côte d'Adam, et non pas à sa tête, non pas une partie de sa tête, ni d'une partie de ses pieds, c'est parce que ce n'était pas des pieds d'Adam, parce que l'homme ne devait pas fouler sa femme sous ses pieds. Ce n'était pas à sa tête, parce que la femme ne devait pas dominer sur l'homme. C'était au cœur, parce que la femme devait être le compagnon, surtout de cœur, de l'homme. Et voilà pourquoi Ève a été retirée à une côte, et ni au pied, ni à la tête. Il y a des raisons, le bon Dieu ne fait rien sans raison. Et voilà pourquoi il a retiré à la côte, à une côte d'Adam. Bon, alors donc, même sans le péché originel, la femme aurait été soumise, l'homme aurait gouverné la femme. Seulement, depuis le péché originel, cette soumission, parce que Ève est responsable d'avoir fait tomber Adam, Adam est responsable d'être tombé, mais c'est Ève qui l'a tombé. Et donc, comme punition d'Ève, cette soumission est devenue désagréable. Avant le péché originel, cette soumission n'aurait été en rien désagréable. Elle aurait été parfaitement agréable, absolument pas contre ma volonté. Mais depuis le péché originel, cette soumission est devenue désagréable. Alors voilà la punition du péché originel, mais même sans le péché originel, donc, il y aurait eu cette soumission, cette hiérarchie dans la famille. Ça, cela n'aurait rien coûté à la femme, tout comme dans un homme et époux et épouse transformés par la grâce chrétienne qui vivent d'une façon vraiment chrétienne, là encore il n'y a aucun, ce n'est pas du tout malgré que la femme se soumet à son mari. Lorsque les deux sont sous l'emprise de la grâce, il n'y a pas de soumission malgré. C'est le péché qui fait que cette soumission naturelle est malgré. Et donc cette soumission les femmes déchaînées d'aujourd'hui se dressent contre cette soumission. Et c'est faux. C'est profondément faux. Et contre Dieu. Et c'est pour cela que les communistes dressent les femmes. Dressent les femmes indépendantes, c'est-à-dire pour détruire la famille, pour détruire l'ordre voulu de Dieu. Donc, première raison, c'est que les femmes doivent être soumises et un enseignant ou un prêtre n'est pas en tant que tel soumis. C'est un en tant que tel, c'est un supérieur. Et c'est pour cela que notre Seigneur a fait que les hommes doivent être les prêtres. Deuxième raison, c'est encore une raison de parfait bon sens. C'est que si les femmes se font prêtres, il y a des hommes qui viendront à l'église, mais pas pour Dieu. Écoute, qu'est-ce que vous voulez? Si la prêtresse est jolie, qu'est-ce que vous aurez beaucoup d'hommes dans l'église, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais c'est le bon sens le plus évident. Je me rappelle, je me permets un exemple un peu profane, mais c'est très amusant, c'est un exemple de bon sens qui permet de voir la chose. C'est un politicien américain qui était un peu méchant, d'une façon assez humaine. Alors il était interrogé par beaucoup de journalistes, y compris des journalistesses, n'est-ce pas? Là encore, c'est un malheur qu'une femme se fasse journaliste, en soi, c'est un malheur. Oh, là encore, honte aux hommes s'il n'y a pas assez d'hommes pour faire des journalistes honnêtes. Mais, alors, celle-ci qui était assez jolie lui a posé une question désagréable, il a regardé, il a dit, vous me permettez le langage un peu, ça vous donne le ton, « Chérie, tu es si belle que je ne t'entends pas. » N'est-ce pas? « Tu es si belle que je ne t'entends pas. » Alors, il a parfaitement esquivé la question. Vous vous figurez, qu'est-ce qu'elle a pu? C'était fini de la question. Mais malheureusement, et c'est de toute évidence, si les femmes étaient prêtresses, « Ah, ma mère, vous êtes si jolie que je ne vous écoute pas. » Oui, mais ce serait absolument cela. Mais ce serait cela. Alors c'est dans la somme théologique, donc c'est la grande théologie et c'est le bon sens même. La grande théologie, c'est de fait le bon sens même. Ça correspond parfaitement avec le bon sens. Et il y a une troisième raison qui m'échappe pour le moment, donné par saint Thomas. Il y a la confession, non? Oui, c'est non, c'est normalement que les femmes ne sont pas assez sages. Pardonnez-moi, c'est encore la grande théologie. J'hésite à dire que c'est le bon sens, mais vous me pardonnerez. C'est enfin saint Thomas que je vous cite, n'est-ce pas? Mais j'explique un peu. C'est-à-dire que pour enseigner comme un prêtre, il faut penser il faut que ses pensées soient dans les nuages, au ciel, n'est-ce pas? Il faut avoir des pensées, vrai que les pensées soient à un niveau très universel, si vous voulez, abstrait, élevé. Or, les pensées, le bon Dieu a fait les femmes en sorte que leurs pensées soient concrètes, n'est-ce pas? Les femmes pensent de façon générale très concrète, mais la sagesse est très universelle. Ce n'est pas concrète et particulier, n'est-ce pas? Vous direz, n'est-ce pas? Vous diriez à une femme, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne peux pas citer d'exemple. Vous me pardonnez ceci, mais n'est-ce pas? Vous direz, les conservateurs sont assez paresseux, et si vous le dites à une femme qui a un mari qui est conservateur, il vous répondra, vous accusez mon mari, n'est-ce pas? On dit quelque chose de tout à fait général, et la tendance de la femme, c'est de penser de façon très concrète. Elle pense tout de suite à sa famille. Et le bon Dieu l'a faite pour penser à sa famille. Et c'est parfaitement juste. C'est sa nature, c'est ce pourquoi elle est. Alors, elle n'incline pas de sa nature à élever sa pensée aux choses universelles et abstraites. Elle pense au concret et au particulier. C'est ça sa force, c'est sa nature. Elle a une façon de penser autre que l'homme. Elle est intuitive, elle n'est pas logique. Et un prêtre, il faut qu'il soit logique, n'est-ce pas? Mais les femmes ont, je vous le dis de cette façon-là, vous avez une logique supérieure à la logique des hommes. Voilà, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux dit comme cela, n'est-ce pas? C'est une logique qui va absolument sans argument, mais qui va droit au cœur d'une question. Et qui souvent a raison, je ne dis pas toujours. Mais c'est de là que vient ce proverbe, ce que femme veut, Dieu veut. Pourvu qu'elle pense vraiment en femme, alors c'est ce que Dieu veut. Elle a un instinct, le bon Dieu lui a donné un instinct, premièrement pour la défense de sa famille. Premièrement pour la défense de sa famille. Alors l'homme, il peut penser des bêtises. Mais alors, elle la ramènera terre à terre, et alors ne fais pas cela, ça fera du mal à Genève. Ou ne fais pas cela, ça va, ou fais cela, ce sera bien pour Janine. Je ne sais pas, n'est-ce pas? Elle pense concrètement, mais un prêtre, il doit penser beaucoup plus universellement. Et c'est pour cela, je crois que c'est ça, disons, qui est derrière cette troisième raison de cette demande, que de façon commune, on ne trouve pas une sagesse suffisante, ou une sagesse de cette nature-là, parmi les femmes. Et c'est pour cela, donc, trois raisons qu'il élimine de l'enseignement public, je répète. Mais un ordre de religieuses, une congrégation de religieuses, pour enseigner les petits-enfants, Dieu soit loué, et que Dieu nous les redonne, et rapidement, parce que nous en avons absolument besoin pour nos petits-enfants. Parce que là, les religieuses font maman, et voilà ce qui va. Voilà ce que Dieu veut, que les religieuses fassent maman. Et donc cela peut aller, et ça va très bien jusqu'à un certain âge. Mais jusqu'à un certain âge et pas plus loin. Par exemple, les mamans ne devraient pas enseigner les garçons, les religieuses ne devraient pas enseigner les garçons au-dessus d'un certain âge. Elles sont inaptes à le faire. Les petits garçons, oui. Mais dès lors, ça doit être les hommes. Mais alors, pour enseigner les filles, toujours dans un cadre familial. Et la salle de classe, les bonnes religieuses feront que c'est un cadre familial. Alors les bonnes dans la salle de classe, là c'est le cadre familial, là oui. Et là, et aussi pour les adolescents. Pour les hommes, enseigner les adolescents, oh là là, cela ne va pas. Cela ne va pas. Encore pour des raisons de parfait bon sens. Et aussi parce que les adolescents, enfin, un homme, il est complètement dépassé, disons-le de cette manière-là. On est complètement dépassé. On ne sait pas sur quel ressort appuyer, tandis que, évidemment, les religieuses ou les femmes savent. Ils savent ce qui se passe dans une fille. Un homme ne sait pas comment ça marche au-dedans. C'est tout à fait différent. C'est un mystère, je n'en sais rien, n'est-ce pas? Alors, pour enseigner donc les filles, les adolescents, absolument besoin les mais toujours dans un cadre familial. Le désastre, c'est lorsque les femmes se mettent à enseigner publiquement. C'est ça le désastre. Qu'elles se dressent pour enseigner publiquement. ça ne convient pas. Ça ne convient pas. On s'en rend compte instinctivement et c'est exactement comme cela pour une prêtresse. Ça ne convient tout simplement pas. Ajoutons, c'est l'une de vous qui vient de le dire, saint Thomas ne le dit pas, mais comment est-ce qu'une femme garderait les secrets de la confession, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, n'est-ce pas? Vous voyez, je le dis en blague. Je pense que l'une de vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Mais enfin, bref, vous voyez que nous avons des natures très différentes. Et donc, revenons à la Très Sainte Vierge au prier au pied de la croix. C'est là, n'est-ce pas? C'est que la Très Sainte Vierge a un rôle au pied de la croix, un rôle sacerdotal. Et on dit, les théologiens disent, que le rôle qu'elle a joué est beaucoup plus grand que le rôle du prêtre. De fait, c'était comme un prêtre, elle était comme un prêtre parce qu'elle a dû offrir son fils en victime. Et si elle ne l'offrait pas, il ne se serait pas offert. Si elle avait refusé, il se serait arrêté. Elle a dû consentir dès le premier fiat. Et pendant toute la vie de notre Seigneur, Notre-Dame a dû consentir et offrir son fils en victime. Exactement comme le prêtre offre notre Seigneur sur l'autel en victime pour nos péchés. Et Notre-Dame a offert en victime. Donc elle a eu un rôle comme sacerdoce. Et voilà le sacerdoce des femmes. C'est donc de s'associer, surtout par la compassion, par la souffrance, de s'associer à Notre-Dame, offrant son fils. Et voilà le sacerdoce des femmes. Et c'est un rôle, si vous voulez, qui peut être plus grand que le rôle des prêtres. À sa manière, c'est comme la Très Sainte Vierge est plus grand que le prêtre, et bien voilà la grandeur sacerdotale voulue par Dieu pour les femmes. Et lorsque les pauvres femmes égarées veulent pour elles-mêmes le rôle des hommes, et bien c'est typique de notre époque moderne. Mais revenons-en à la Très Sainte Vierge Marie. Donc, n'est-ce pas? Pensons d'elle, pensons des souffrances physiques de son fils, ces terribles souffrances physiques. Et elle tient le coup et elle tient debout et jusqu'au bout. Pensons encore un détail de la prise pris dans la Valtorna, encore un détail qui nous aide à imaginer. Donc, imaginez notre Seigneur s'élevant et s'affaissant alternativement sur les trois terribles clous. Imaginons vers la fin, les ténèbres s'épaississent, ça devient toujours plus sombre. Au fur et à mesure de ces trois heures, le monde devient de plus en plus sombre. Les cœurs des hommes ne se ploient pas. Ma foi, c'est la nature même qui se fend et s'éploie. Les grandes pierres se fendent en Dieu. Les cœurs des hommes ne se fendent pas, mais les pierres se fendent en Dieu, en Dieu. Et puis, les ténèbres, si les hommes ne se rendent pas compte de ce qui se passe, la nature se rend très bien compte de ce qui se passe.